Bonjour à toutes et à tous, ici l'œil de Chéri. Avant de plonger dans votre épisode, voici un petit moment de publicité. Et oui, ça y est, le podcast devient tellement influent qu'on nous demande de faire de la publicité. Mais ça tombe bien car c'est sur notre compositeur préféré. Alors je vais vous parler d'un événement pas comme les autres. Il s'agit de Beethoven Wars. Du 23 au 26 mai, la scène musicale accueillera ce spectacle immersif imaginé par la chef d'orchestre Laurence Equilbet et l'auteur-réalisateur Antonin Baudry. Imaginez un space opéra immersif ou un film d'animation inspiré de la science-fiction et de l'univers manga qui se marie harmonieusement avec les œuvres moins connues de Beethoven. C'est ce que vous promet Beethoven Wars. Pour en savoir plus sur cet événement unique et captivant, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience fantastique. On lance l'épisode et peut-être on se retrouvera du 23 au 26 mai à la scène musicale.
Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique.
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Nous sommes actuellement au Japon pour des vacances, mais le podcast continue. Nous avons préparé des épisodes pour continuer à pouvoir vous régaler. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que nous allons sortir une BD qui s'appelle Vertigeo. Nous avons hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Il y aura une tournée de dédicaces, un podcast, des making-of, bref, vous saurez tout de notre nouveau projet. N'hésitez pas à aller chez votre libraire pour réserver ce roman graphique de 136 pages qui sortira chez Casterman. Mais assez de publicité, on passe maintenant à notre podcast consacré aux grandes villes de la science-fiction. Ce podcast est un petit peu une suite d'un autre épisode que nous avions fait sur les villes du futur. Et cet épisode avait très bien marché, on a senti une appétence des auditeurs et des auditrices pour en savoir plus. Et donc là, on a décidé de se concentrer sur les grandes villes de la science-fiction, qu'elles soient au cinéma ou qu'elles soient en littérature. On va justement se mettre dans l'ambiance. On écoute un petit extrait du film Le Cinquième Élément pour être immergé dans une grande ville du futur avec des taxis volants. Et on passe à la présentation de notre invité. Bonne émission à vous.
Elle a plongé.
Vous venez d'avoir un accident.
Oui, d'accord, je sais que j'ai eu un accident, abruti. Il vous reste un point sur votre permis, d'accord. Attention ! Dégage !
Merde.
Il y a des survivants ?
J'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'être avec Alain Musset. Alain Musset est géographe et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et surtout, Alain Musset a produit un excellent essai, Station Métropolis, direction Coruscant, avec le sous-titre Ville, science-fiction et sens social. C'est publié aux éditions du Bélial, c'est sorti en 2019. C'est évidemment excellent et je recommande cet essai. Mais on va commencer avec notre traditionnel bonjour. Bonjour.
Alain bonjour. Musset. Bonjour, Loïc.
Merci d'être
venu. Et bonjour à tout le monde, bien sûr.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour ce podcast. On se court après depuis quelques semaines, justement, pour arriver à faire ce fameux épisode qui en vaut vraiment le coup. Déjà, juste un mot, Alain. Moi, j'ai la référence, mais je pense que je vais vous laisser l'expliquer aux auditeurs et auditrices. Station Métropolis, direction Coruscant. C'est quoi la référence, Alain?
Ah, ben, c'est les aventures de Valérian et Laureline, et je dis bien de Valérian et Laureline ou de Laureline et Valérian. Bon, c'est Christin et Mézières. C'est ce fameux épisode où ils doivent aller rechercher des artefacts mystérieux sur la planète Zomuk. Et donc, c'est Station Châtelet, direction Cassiopée, et c'est absolument extraordinaire.
Chef-d'œuvre de la BD franco-belge, et en effet, un diptyque, un des premiers diptyques de Valérian et Laureline, avec ce titre aussi fascinant. Alors Alain Musset, première question qui est en fait une référence un peu à la première page, enfin et à la première phrase de votre ouvrage. Pourquoi la science-fiction n'est pas tendre avec les villes ?
Alors c'est vrai, c'est général. Hein, de toute façon, les villes, elles sont qualifiées de monstrueuses, de tout ce qu'on voudra. On les accuse d'être trop grandes. Il y a des villes même qui couvrent des planètes. C'est le cas de Trantor ou de Coruscant. Il y a la surpopulation, l'hyperconcentration des activités. Il y a la pollution, il y a la violence. Il y a tout ce qu'on veut, le racisme, la séparation des espèces, qu'elles soient volontaires ou imposées, bien évidemment. L'oppression des minorités ethniques. Il y a de tout. Et surtout un péché qui est vraiment irrémédiable, surtout dans la science-fiction américaine, c'est la ville nous détourne de la nature, et nous détournant de la nature, elle nous détourne de Dieu. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, et c'est vrai que si on prend New York dans Soleil Vert, Los Angeles dans Blade Runner, Détroit dans Robocop, ou la Néo-Séoul de Cloud Atlas, est-ce qu'on aurait envie de se promener dans ces villes ? Non, bien sûr que non, mais c'est aussi parce que c'est un but, hein, c'est une intention, c'est volontaire, on dénonce les maux d'aujourd'hui, afin de peut-être essayer de corriger l'avenir, de dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut arriver à la situation de Blade Runner ou de Soleil Vert ? Non. Alors regardez, voilà ce qui risque de se passer dans le futur si on continue dans cette voie. Donc c'est ça qu'il faut voir.
Peut-être on va faire un petit moment historique, puisqu'il est, c'est aussi dans votre essai. D'où vient cette vision dystopique de la cité ? D'où est-ce que ça vient un peu ce fantasme-là, ou pas vraiment ce fantasme, ce cauchemar ?
Alors c'est profondément ancré dans les mentalités collectives essentiellement de l'Occident. Hein, il faut dire ce qui est. Ça remonte à très très loin, les critiques. Il n'y a pas besoin d'attendre la science-fiction. Déjà, dans le monde romain, avec Virgile dans les bucoliques et les géorgiques, on a une critique de la ville parce que c'est insupportable. La ville de Rome, hein, évidemment, qui est beaucoup trop grande, tout ce qu'on voudra. Et il y a un vers de Virgile qui est « O fortunatos nimium agricolas, si bona norint, ah, que seraient heureux les paysans s'ils connaissaient leur bonheur. » Donc le bonheur, il est à la ferme, il n'est pas dans la ville. Et ça a été repris par ensuite, au XVIIIe siècle, par Jean-Jacques Rousseau, qui a critiqué la ville, qui est un endroit de promiscuité, de dangerosité, où finalement on s'affronte les uns et les autres. Il y a eu l'épisode fameux du tremblement de terre de Lisbonne, donc qui a détruit une partie de la ville, qui a fait des milliers de morts. Il avait dit à juste titre que si on ne s'était pas concentré de cette manière-là, il n'y aurait pas eu de désastre. Le désastre n'est pas naturel, il est provoqué par les hommes et leur manière de s'assembler. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est très lointain. Aux États-Unis, il y a deux grands auteurs qui ont marqué cette détestation de la ville, c'est Thoreau et Emerson. Et toujours dans les mêmes logiques, la ville nous éloigne de Dieu, et pour Thoreau, c'est l'inventeur de la désobéissance civile, il faut vivre dans les bois parce qu'on se rapproche de soi-même, et en se rapprochant de soi-même, finalement on finit par se rapprocher des autres, alors que la ville, paradoxalement, avec son entassement, nous sépare. Donc il y a toutes ces traditions, hein, qu'on retrouve, et évidemment il y a le tréfonds de tout ça, c'est la religion, hein, c'est Babel d'un côté, hein, c'est Babylone de l'autre, les deux villes qui scandent l'histoire de l'humanité, la première grande ville et la dernière, celle qui sera détruite par l'Apocalypse. Donc tout ça nourrit un sentiment vraiment de haine de la ville qui aboutit, dans certains cas, dans la science-fiction, à un projet de civilisation sans ville, ce qui est un paradoxe puisque civilisation vient de civitas, donc de la ville. Je vais prendre un exemple qui est le plus connu peut-être, surtout pour les Français, c'est Ravage de Barjavel, Donc 1943, si je ne me trompe, suite à une sorte de désastre pas facile à comprendre, l'électricité disparaît, les villes s'effondrent, et notamment Paris, Paris qui avait été complètement remanié, transformé par une sorte d'architecte fou qui s'appelle, dans le roman, Le Cornemusier, genre, évidemment, un petit clin d'œil à Le Corbusier, et qui va sauver les restes de la civilisation, c'est un habitant qui vient, lui, de la campagne, qui a été trahi par Paris. Il s'appelle François Deschamps. C'est tout un programme. C'est le Français de la campagne. Et il va créer un nouveau monde après l'effondrement où on interdira les villes parce qu'elles sont des endroits qui sont mauvais à la fois pour la santé physique et pour la santé morale des habitants et des habitantes. Donc voilà, on peut en arriver jusque-là. La science-fiction condamne la ville même dans le futur.
Vous évoquez cette dialectique verticale de certaines villes de SF avec cette représentation classique des riches qui sont en haut et les pauvres qui sont en bas. Comment expliquez-vous que cette représentation fonctionne toujours aussi bien dans les différents récits ?
Oui, ça surtout dès le départ, je veux dire, dès le départ. Non, mais c'est Metropolis, on y reviendra, qui lance ce modèle de classe sociale et de classe spatiale. Plus on est en haut, plus on est riche, plus on est en bas, plus on est pauvre. Et tout en bas des gratte-ciel de Metropolis, c'est la cité des ouvriers, c'est le terme qui est utilisé, où les gens ne voient jamais la lumière du jour. Donc c'est quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. Et c'est en fait très intéressant parce que c'est une représentation à la fois physique et symbolique qui est très efficace pour identifier les relations de pouvoir et les inégalités sociales. Ça, c'est très bien. Et donc, effectivement, ça perdure. Or, il y a Metropolis. Dans 3001, l'Odyssée finale, il y a Arthur C. Clarke qui parle d'une société du futur qui se dit égalitaire, etc., mais où il y a de très, très grands gratte-ciel. Et quand tu en habites au 10 000e étage, c'est un statut social qui est représenté. Donc, il y a une place sociale qui correspond à une place spatiale en hauteur. Plus on est haut, mieux on est placé. Et c'est quelque chose qui est très, très marquant parce qu'on le retrouve un petit peu partout. Et c'est l'intéressant pour moi, c'est que je suis géographe, donc je travaille aussi sur le terrain. Je ne travaille pas que dans les mondes imaginaires. Je travaille dans la réalité et je vois comment la réalité, je dirais, percole dans la science-fiction et vice-versa. Dans les courants de l'espace, c'est un roman de 1952 d'Asimov. On parle d'une planète Florina qui a une ville centrale, la capitale, dans laquelle il y a un mélange. Il y a d'un côté, d'ailleurs ce n'est pas vraiment un mélange, ça dépend de l'échelle choisie bien sûr, il y a les gens qui sont des colons et il y a les autochtones. La cité est en fait sur deux niveaux, il y a une sorte de plancher plafond qui sépare les deux. Au-dessus, il y a les colons et en dessous, il y a les autochtones. Donc, c'est quelque chose qui est très net et qu'on va retrouver, par exemple, il y a des collègues qui ont travaillé sur les villes arabes et du Maghreb. Il y en a un qui me disait qu'à Fès, au Maroc, il y a en fait une opposition entre Al-Tat, le bas, et Al-Fouk, le haut. Il y a les deux, et ça désigne en fait le bas, l'ancienne ville arabe, et le haut, la ville des colonisateurs. Donc, on voit que dans Fiorina, il y a une interprétation très claire, en fait, de la situation coloniale. Donc, évidemment, tout ça se retrouve un petit peu partout. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais il y en a un qui me plaît beaucoup parce que j'adore Silverberg, Robert Silverberg, c'est dans Les Monades Urbaines. C'est quand même extraordinaire. On est dans la Terre de 2381, il y a 75 milliards d'habitants, donc impossible évidemment de se disperser sur la surface. Les gens sont réunis dans de grands gratte-ciels de 3 km de haut qu'on appelle des monades, et là aussi il y a une séparation. Plus on va vers le haut, plus on occupe une place importante dans la société. Donc, c'est parce que, c'est, encore une fois, c'est facile, c'est symbolique et on s'y retrouve très bien. Et là, il y a quelque chose qui est important, c'est que ça facilite aussi autre chose. L'imperméabilité des classes sociales. Avec un édifice fermé qui s'étire en hauteur, même sur plusieurs kilomètres, c'est facile de séparer les riches, les pauvres, les classes dominantes et les classes dominées. C'est ce qu'on a à Coruscant. À Coruscant, c'est très simple. Dans les grandes monades, parce que ce sont des monades aussi de Coruscant, à partir du 10e étage, c'est bloqué, c'est scellé. C'est-à-dire que les gens qui habitent en dessous du 10e étage ne peuvent pas passer au-dessus. L'ascenseur social est bloqué. Et c'est quelqu'un comme Catherine Dufour, dans Le goût de l'immortalité, reprend le même principe. Dans ses gratte-ciel à elle, là c'est en Chine que ça se passe, eh bien on bloque les étages et comme ça les inférieurs restent en bas et ceux qui font partie des classes sociales les plus élevées économiquement, politiquement et spatialement se sentent en sécurité.
Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette question des classes est même revenue dans certains drames. On pense au Titanic, avec évidemment les classes supérieures. La première classe était en haut, et puis la troisième classe, on voit d'ailleurs dans le film de James Cameron, qui ferme à un moment donné.
Oui, il ferme aussi.
Il ferme les troisième classes pour les empêcher de sortir, en fait. Une séquence tragique du film, mais qui est malheureusement réaliste. J'en profite pour vous demander, puisqu'on est toujours dans la verticalité, votre avis sur le film Elysium, avec Matt Damon, de Neil Blomkamp, avec sa lune paradis, et un côté un petit peu la lune paradis des riches versus la terre enfer des pauvres. On parle assez peu de ce film, malheureusement, qui est un peu oublié, qui n'avait pas été un très très grand succès à l'opposé de District 9, qui est le grand film de Neil Blomkamp. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette représentation de la cité?
Alors, d'abord, Elysium est un film très très intéressant, encore une fois, pour le géographe que je suis, géographe urbain, mais c'est vrai que ce n'est pas un grand film, il faut dire ce qui est. Notamment, la fin, je ne veux pas spoiler, mais bon, en gros, tous les problèmes peuvent être résolus en appuyant sur un bouton, j'y crois pas beaucoup. Mais en revanche, c'est une très bonne illustration de ce qu'on appelle la sécession urbaine, qui est un terme géographique ou social. C'est comment les riches ou les classes sociales les plus aisées veulent se séparer des autres et réussissent à se séparer. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec les gated communities, c'est-à-dire les communautés fermées, qui se sont répandues ensuite en Amérique latine avec les condominios cerrados. C'est exactement le même principe. On se réunit entre soi, entre gens de même catégorie, souvent d'ailleurs entre gens de même couleur de peau, et on s'isole. On va faire vraiment un phénomène de sécession. On se sépare des autres. Donc ça, l'avantage avec Elysium, c'est que ça touche ce problème-là, mais en le mettant à une échelle complètement disproportionnée, parce que là, on va s'installer dans un satellite qui va tourner autour de la Terre, et les pauvres d'en bas regardent en disant « Ah mon Dieu, si je pouvais aller là !» Exactement comme les Mexicains ou les Centra-Américains qui essayent de franchir le Rio Bravo pour atteindre la Terre promise. La Terre promise, elle est là-haut dans Elysium. Elle est ici, sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et justement, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les travailleurs de la frontière, sur les migrants les vendeurs de rue, etc., à Tijuana. Et c'est passionnant de voir que la science-fiction aborde des sujets aussi importants. Alors, il n'a pas été le seul, Blomkamp. Pour donner un exemple, il y a une BD que j'aime beaucoup qui est Golden City de Pecker et Malfin. Là, on est isolé, enfin les riches, les dominants sont isolés, ils sont sur une île flottante, un gigantesque bateau qui est merveilleux, il y a de la végétation, il y a tout le confort, etc. etc. alors que les gens qui vivent sur le continent vivent dans la misère, la violence, etc. etc. Donc, il y a cette idée du conflit permanent de classe sociale et de sécession qui a été très, très bien exprimée. On a la même chose à Coruscant. À Coruscant, on a aussi des résidences orbitales qui permettent aux plus riches, d'ailleurs l'empereur a une résidence orbitale, il n'est pas le seul, les grands entrepreneurs, les grands mafieux peuvent avoir un petit satellite à eux pour s'isoler et vivre tranquillement. Mais l'idée vraiment de Blomkamp pour Elysium, elle existe. Elle existe. En fait, il a pris un projet de l'université de Stanford, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire un satellite en forme d'anneau qui était prévu là pour héberger 10 000 personnes. C'était juste un projet pour se faire plaisir, mais en collaboration avec la NASA. Donc, on voit qu'il y avait un projet scientifique derrière. Et donc, lui, il a repris ça. Et les images que l'on voit d'Elysium sont directement prises sur les croquis et les peintures qui avaient été faites pour illustrer ce qu'on appelait le tort de Stanford. Donc on voit encore une fois cette interpénétration entre la science-fiction, la science tout court et les réalités sociales.
D'où vient cette sécession urbaine ? À quel moment vous datez ce moment où vous voyez qu'une communauté plutôt riche souhaite créer sa propre communauté et vivre en autarcie, entre guillemets ? À quel moment vous le voyez historiquement, ça ?
En réalité, ça a toujours été comme ça.
Voilà.
Ça a toujours été comme ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas... Je sais qu'on a l'habitude de dire que la ville de la révolution industrielle a changé les choses, etc. Non, il y a toujours eu une séparation entre les classes dominantes et les classes dominées.
Au Moyen-Âge, il y avait un château. Le seigneur avait son château.
Etc. Alors après, il pouvait y avoir des mixités sociales, mais qui ne séparaient jamais de façon, comment dire, qui ne se séparait jamais d'une distance sociale. Donc, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on peut y avoir une très grande proximité entre des gens de statuts différents, mais la distance sociale, elle existe. La société d'Ancien Régime en France, par exemple, les gens se mélangeaient très facilement. Les domestiques vivaient avec les maîtres. Mais on pourrait dire qu'ils étaient quasiment d'une autre espèce. C'est-à-dire que les nobles pouvaient faire l'amour avec devant un serviteur qui, lui, tenait la lampe. Comme nous, ça ne nous gêne pas d'avoir le chien à côté pendant qu'on fait des galipettes. Vous voyez, c'est ça. Mais il y avait, de toute façon, des quartiers qui montraient un certain statut. Si on prend l'île Saint-Louis à Paris, si on voit le nombre d'hôtels particuliers, on se rend compte que, évidemment, les gens habitaient dans la périphérie. Et ce qu'on va retrouver un petit peu partout. J'ai travaillé encore une fois beaucoup sur les villes latino-américaines ou espagnoles en Amérique, et c'était très net. De toute façon, il y avait un plan qui était le plan classique en hippodamien, mais il représentait aussi les lieux de pouvoir. Il y avait le palais du gouverneur, il y avait l'église et le palais de la municipalité. Et qui allait s'installer là ? Évidemment, la bourgeoisie. Et donc, après, au fur et à mesure, en s'éloignant dans l'espace urbain, on avait les gens qui étaient de moins en moins riches et ensuite de plus en plus pauvres. Donc, il y a cette idée-là de séparation. Elle est ancienne, mais l'idée de s'enfermer dans des murs pour réellement se séparer des autres, ou alors carrément aller dans l'espace, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, parce qu'avant, dans la ville, en gros, il y avait un mur. Là, il y avait la muraille, au Moyen-Âge, qui faisait la distinction entre le bourg et le faubourg, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde civilisé et le monde sauvage. Et là, c'est différent. C'est-à-dire, dans la même ville, il va y avoir des murs qui se font pour isoler certaines catégories de population et les mettre à côté, mais vraiment à côté des autres, sans se mélanger. Et ça, c'est quand même nouveau, et on peut dire que c'est les États-Unis qui ont lancé ça, avec la fuite des élites urbaines vers les périphéries dans un premier temps, ce qui fait que les centres-villes qui étaient avant réservés aux plus riches ont été envahis par les plus pauvres. Ça a été étudié par l'école de Chicago, donc ce qu'on appelait l'écologie urbaine, et en montrant que les... et c'est une perspective très, très américaine parce que c'est social et racial en même temps. C'est comment on passe d'une classe sociale blanche dominante à des classes sociales noires dominées. Les blancs s'en vont, les noirs arrivent, et évidemment, comme ils sont plus pauvres, le quartier se dégrade. Donc ça, c'est un phénomène, encore une fois, qui a été étudié, on est là dans les années 20.
Vous évoquez également la thématique des bidonvilles du futur.
Oui.
Vous y consacrez un chapitre. Alors souvent, on peut dire que c'est relié à la surpopulation. Je repense à ce chef-d'œuvre. On a fait un podcast dessus, sur Tous à Zanzibar,
oui,
qui est un immense roman. Parlez-nous un peu de ces bidonvilles du futur.
Alors, pourquoi ai-je consacré tout un chapitre aux bidonvilles ? Parce que c'est peut-être la ville de demain. On nous parle tout le temps de la smart city, la ville intelligente, etc. La ville qui va être hyper connectée, où on va se retrouver en sécurité, etc. On en discutait tout à l'heure, mais c'est The Line en Arabie Saoudite, une ville de 10 millions d'habitants en plein désert, isolée, exactement comme Elysium, mais là, ce n'est pas le désert qui isole Elysium, c'est le vide spatial. Donc, on parle beaucoup de ça et de l'avenir des villes est là. Oui, mais pour qui ? Pour combien de personnes ? Et moi, je considère, et avec Mike Davis, qui est un grand penseur nord-américain, qui a écrit un bouquin qui s'intitule qui a été traduit en français, qui est le pire des mondes possibles, dans lequel il parle de ce qu'il appelle le bidonville global. Il dit, mais de plus en plus, les gens vont vivre dans des bidonvilles parce qu'ils n'auront pas les moyens d'aller dans The Line. Ils n'auront pas les moyens d'aller dans des gated communities. Ils ne pourront pas accéder aux smart cities. Et donc, ils vont s'entasser dans des bidonvilles infâmes qui vont s'étendre un petit peu partout à la surface du globe. Et là, la science-fiction l'a compris.
Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas, entre guillemets, avec les ghettos qui ont fleuri comme des champignons dans les années 60-70, entre guillemets ? Est-ce que le fait que dans certaines villes de France où on mette que des populations, entre guillemets, en difficulté, participe pas à ça ?
Alors, c'est autre chose. C'est un autre phénomène. Le bidonville, c'est de l'habitat précaire, avec des matériaux de récupération, etc. Le ghetto français, le type de ghetto qu'on a, c'est de l'habitat social, financé au départ en grande partie par l'État, qui était théoriquement au départ conçu pour tout le monde. Chamboredan et le maire ont beaucoup travaillé là-dessus, et notamment sur l'idée de proximité spatiale et de distance sociale. Ça a été un échec, et donc on a entassé dans ces territoires perdus durant des populations immigrées, ce qui a renforcé le caractère de plus en plus délicat, pour être gentil dans le terme, des habitants qui sont là, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'adresse. Tu habites où ? J'habite à La Courneuve. Ou pas. Tu veux trouver un emploi ? Ça va te coûter cher parce que le seul fait d'habiter là, tu es marqué. C'est une marque indélébile sur...
comme le prénom, d'ailleurs, pour ça.
Mais voilà. Comme le prénom, mais c'est pareil. Effet d'adresse, effet de prénom, c'est exactement la même chose. Donc, le bidonville, c'est autre chose. C'est vraiment l'habitat hyper précaire, du carton, ça peut être de la pierre, de la boue séchée, etc. etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle de bidonville global. On retrouve exactement les mêmes paysages urbains dans tous les territoires des périphéries des grandes villes mondiales. Encore une fois, en tant que géographe, j'ai travaillé dans ces domaines. J'ai travaillé dans les quartiers pauvres de Medellín, dont Santo Domingo Sabio. Je suis allé à Dandora, à Nairobi, pour discuter avec les gens, voir les problèmes posés. Et si on prend une photo quelque part, on prend la photo, par exemple, à Dandora. Si on prend une photo à Medellín, à Santo Domingo Sabio, personne n'est capable de faire la différence. C'est exactement la même architecture, c'est-à-dire une architecture très pauvre, évidemment, mais qui passe. On va retrouver les mêmes panneaux de Coca-Cola sur les murs ou sur les toits. C'est pareil. On a vraiment une globalisation de la misère. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la science-fiction qui dénonce, encore une fois, non pas l'habitat tel quel, mais le système qui produit cet habitat. Tu as vu la série 3%. Donc, c'est le Brésil, c'est les favelas. On est dans le futur, mais... Ça va, il n'y a pas besoin d'aller construire le décor, il y est. C'est la même chose. Tu parlais de District 9. District 9, c'est un township habité par des extraterrestres. Avant, il était habité, c'est dit d'ailleurs dans le film, par des populations autochtones noires. Le décor, il est tout fait. Donc, on est à la fois dans le présent et la science-fiction nous dit, mais est-ce que vous voulez aller encore plus loin, que tout le monde habite dans des trucs comme ça? Bon, c'est assez étonnant. Et on parlait, encore une fois, non pas District 9, mais d'Elysium. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans Elysium, parce que c'est assez brutal. On est à Los Angeles en 2154. Donc, les riches dans le satellite, les pauvres à Los Angeles qui vivent dans des conditions abominables, un habitat pourri, le danger, l'exploitation, la criminalité, enfin les maladies, la pollution, tout ce qu'on veut, et les quartiers qu'on nous montre sont affreux. Est-ce que tu sais quel est le décor de ces quartiers ?
Pas du tout.
Non ? Eh bien, ils existent. Il n'a rien inventé. On est à Mexico, à Iztapalapa. C'est un quartier de Mexico. Alors, tout n'est pas complètement pourri à Iztapalapa, hein, attention. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont très, très pauvres. Et donc, plutôt que de créer un décor, ils sont allés tourner là. Et c'est très, très facile. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans le film de Villeneuve, donc Blade Runner 2049, quand K s'en va avec sa navette volante pour aller vers San Diego, il traverse des quartiers, là il fait nuit, il fait sombre, etc. Ce sont les mêmes quartiers, presque les mêmes images que Elysium, mais de nuit. Et donc on est aussi à Iztapalapa. Et là, je crois que c'est quand même assez frappant. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de ces quartiers-là. Ils sont peut-être le futur de notre humanité, et c'est vrai que ce sont des zones qui sont des zones de conflit permanent qui sont liées à la misère.
Comment expliquez-vous que nos auteurs de science-fiction soient aussi marqués par la criminalité des villes ? Et je pense justement à Robocop, vous en parlez un petit peu dans votre essai.
Alors oui, alors pourquoi sont-ils marqués par la criminalité ? Ben parce que tout simplement, ça fait partie des grandes peurs contemporaines. Alors, ça a toujours fait partie. Là, on lit la satire 3 de Juvenal, donc il parle de Rome, il dit à Rome on peut pas sortir la nuit, il faut avoir 10 gardes armés avec soi parce qu'on risque de se faire dépouiller, égorger, violer, etc. Bon, c'est ce qu'on nous répète sur tous les médias, en particulier quelques-uns liés à des hommes d'affaires qui sont eux-mêmes liés à des partis, qui sont eux-mêmes liés, etc. etc. Donc, on dit c'est affreux, etc. Mais la science-fiction le prend, je ne vais pas dire au pied de la lettre, mais le prend comme une réalité qu'il va falloir, je dirais, essayer de combattre en proposant peut-être autre chose. Hein, attention, la science-fiction est très rarement utopique. Parce que son boulot principal, c'est de dénoncer les maux actuels en les projetant dans le futur avec l'avantage qu'on n'a pas de barrière pour la science-fiction. On peut inventer tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on peut mettre aussi des riches dans l'espace. Donc l'idée, c'est ça. Et donc on va reprendre cette peur de nos sociétés contemporaines. Et je voudrais donner une citation d'Asimov. Ça fait partie des grands auteurs et j'aime beaucoup Asimov, évidemment. Dans l'aube de Fondation, hein, il dit, et là, je cite, je me permets de citer. Il dit Dal, c'est un des quartiers de Trantor. Dal est le secteur le plus pauvre de la planète et il existe une corrélation positive entre la pauvreté, la misère et le crime. Hein? Alors, c'est pas si simple que ça, bien entendu. Hein? Mais dans des sociétés où la fracture sociale et économique, sans parler des fractures ethniques, sont de plus en plus fortes, il est évident que parfois, la seule solution, c'est la violence. Hein? Et on va le retrouver dans la science-fiction. J'aime bien, il y a eu toute une série de romans pour adolescents consacrés à Star Wars. Il y en a un qui s'intitule « Le coup du paradis », c'est la jeunesse de Han Solo. Han Solo va se retrouver à Coruscant, il descend dans les profondeurs, et là, il se fait attaquer par un gang. Hein? Parce que les street gangs aux États-Unis, c'est une réalité, hein? À la fois social et politique, les deux à la fois, et ethnique, ne l'oublie pas encore, c'est important pour les États-Unis. Et c'est pas un hasard si le chef du gang, il est présenté avec la peau un peu obscure, il a les cheveux noirs tirés, gominés, etc. C'est un latino. Et c'est la peur des gangs latinos. Et c'est vrai que si, le dernier recensement que j'avais consulté pour le comté de Los Angeles, c'est qu'il y avait plus de 500 gangs de rue, essentiellement de jeunes, avec plus de 45 000 affiliés. Et souvent des gangs ethniques. Les latinos, des asiatiques, etc., etc. Donc l'idée de Robocop c'est la violence. Et il y a cette image, je pense que c'est celle-là que tu fais référence, où l'on voit aussi, c'est presque au début du film, c'est une jeune femme, c'est la nuit, elle est attaquée par deux malfrats, juste au pied d'une grande publicité pour Delta City, qui est la ville projetée par les entrepreneurs parce qu'ils veulent raser Détroit et créer Delta City, qui est une ville sécurisée, transformer en fait Détroit en une gigantesque gated community. Et là, évidemment, Robocop apparaît, il flingue les deux méchants. Alors, l'idée, c'est que trop souvent, on s'arrête là. Robocop, c'est un truc où il y a ce flic cyborg qui est le shérif du futur. Et on oublie le message politique. On est dans les années Reagan. C'est une charge contre les politiques néolibérales, contre les privatisations, etc. etc. Et donc, il faut le prendre tel quel. C'est une dénonciation. Et ce n'est pas pour rien qu'elle se fait attaquer au pied de cette grande publicité pour montrer la collusion entre les grands entrepreneurs, les financiers et la pègre. Parce qu'ils encouragent la pègre pour que les gens aient peur et finalement succombent à la tentation de la sécurité au mépris de la liberté. C'est Robocop, c'est un très grand film.
C'est intéressant parce qu'en sous-texte de nos discussions, on peut aussi se questionner sur la partie politique et de se demander que font nos politiques. Alors, ce n'est pas forcément des lecteurs de science-fiction, quoique certains sont plus lecteurs de SF que d'autres. mais par contre, ils font appel à des géographes. En tout cas, de temps en temps, on fait appel à des géographes. Est-ce que finalement, l'action politique ne peut pas améliorer les choses et améliorer peut-être ce monde où on se dirige, qui est un espèce de monde pré-cyberpunk, un peu post-apo, vers quoi on va?
Alors oui, mais à condition que les politiques aient envie de le faire et qu'ils n'aient pas les mains liées par... Un de nos présidents a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Et il a choisi comme successeur un financier. Il y a des choses que je ne comprends pas bien. Hein. Donc oui, il y a une possibilité et la science-fiction s'en est chargée. Kim Stanley Robinson, par exemple, dans Rivage du Pacifique.
Rivage du Pacifique, et voilà. Puis même dans le ministère du Futur, alors différemment,
oui,
mais
différemment,
il propose de la politique.
Il propose de la politique pour changer le monde, et il a raison. Parce qu'il y avait un slogan il y a quelques années qui disait « Il faut changer la ville pour changer la vie ». C'est faux. C'est exactement le contraire. Il faut changer la vie pour changer la ville. Parce que la ville n'est que l'expression, l'incarnation d'une idéologie, pas plus. Hein. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, par exemple, que agir comme ça sur la ville sans réfléchir sur la société, c'est un petit peu, en fait, quand on se regarde dans un miroir, hein, et on voit que sur le miroir, mince, j'ai des rides, j'ai des trucs, bon, c'est pas génial. Donc, je vais faire du cosmétique. C'est-à-dire, je vais peindre le miroir, je vais cacher les rides, je vais regarder, ça y est, j'ai plus de rides. Et non, c'est que le miroir. Le visage, il est toujours là. C'est la société qui produit la ville. Hein. Donc, si on veut changer réellement la ville, il faut changer la société. C'est pas neuf, hein. C'est des discours qui sont déjà anciens, mais je crois qu'il faut le répéter. Il y en a un, il y a un ouvrage de science-fiction, c'est de Camille Le Boulanger, qui s'appelle Utopia, qui m'a personnellement bouleversé. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et c'est parce qu'il propose une vision du futur qui est post-capitaliste, avec une société qui est participative, c'est vraiment très très politique. Il ne masque pas les difficultés qu'il peut y avoir pour obtenir un consensus, hein, parce que la politique par consensus, c'est difficile, mais il propose quelque chose. Et une société qui va être complètement différente, avec des villes qui vont être à l'image de cette société, qui vont changer. Il y a les villes anciennes qu'on va remodeler, changer. On va considérer, par exemple, que la nature n'est plus une ressource. C'est un fait, mais pas une ressource. Le travail, c'est la vraie valeur, mais on travaille à son rythme, comme on veut. Il y a très peu d'inégalités. Les inégalités, en fait, elles sont liées à un peu plus d'engagement par-ci, un peu plus d'engagement par-là, mais pas plus. Mais si on ne veut pas, on n'est pas obligé. Et on a un brossé, il nous brosse vraiment une sorte de... de panorama extraordinaire. On part de la toute jeunesse du héros jusqu'à presque sa mort. On voit ces transformations, on voit cette société qui se développe, qui propose et qui nous dit un autre monde est possible. Hein, et là, oui, on a de vrais résultats. Encore une fois, il ne cache pas, il y a des difficultés, je ne vais pas spoiler. Hein, on m'a déjà accusé de spoiler une fois, non, mais dans mon bouquin, entre autres, Soleil Vert, parce que je disais la fin de Soleil Vert. Alors, j'ai dit à la personne, c'est un film qui a 50 ans, un demi-siècle, je ne pensais pas vraiment spoiler en donnant la fin de Soleil Vert. Mais, donc je ne veux pas spoiler parce que c'est neuf, mais les 200 dernières pages, mais je n'ai pas pu m'arrêter, il a fallu que je les lise pendant la nuit. Voilà. Donc on peut, ça peut se faire.
On invite donc Camille Le Boulanger sur le podcast s'il a envie de venir y en parler derrière notre micro. Ce sera évidemment un plaisir. Le temps tourne, cher Alain. On va aller dans la deuxième partie de notre émission où on a décidé de vous faire analyser des grandes villes de science-fiction que vous citez évidemment dans votre roman et que vous, enfin dans votre essai pardon, et que vous analysez. Ce sont des villes de science-fiction qui ont marqué notre imaginaire. Alors à chaque fois, on va diffuser un extrait et puis on vous écoute en discuter, en tout cas discuter du film et la représentation de la ville. On commence avec ce premier extrait. Alors, certains l'ont peut-être reconnu, c'était la ville de Métropolis du film de Fritz Lang. Pour les curieux, on a déjà fait un long podcast sur ce film. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Métropolis, Alain Musset ?
Bon, je peux parler sans spoiler. Là, ce n'est pas un demi-siècle, c'est un siècle. Hein, donc, y a sûrement des gens qui ne l'ont pas encore vu, mais pour moi, et pas que pour moi, c'est l'archétype du genre, c'est le modèle, c'est le premier grand film de science-fiction, je ne tiens pas compte de Méliès, hein, sympa et tout, mais avec une vraie histoire, avec de la tension, et la vision de la ville qu'il nous donne est une vision qui est assez épouvantable, il faut dire ce qui est, c'est le début de la représentation cinématographique de ce qu'on a appelé l'urbanophobie. Hein, la haine de la ville, la détestation du monde urbain. C'est une ville où il n'y a que des gratte-ciel énormes, gratte-ciel qui sont dominés par le plus haut de tous, qui s'appelle la nouvelle tour de Babel, hein, qui est là où se terre le maître de la cité, Geoffrey d'Hersen. Tout autour, il y a des rues, des ponts, des avions qui passent hein, au milieu, parce que la circulation est aussi aérienne. C'est une ambiance oppressive. Et là, on met en place le système de la dialectique du haut et du bas. Hein, en haut, les élites, les administrateurs de la cité qui se réunissent dans des jardins magnifiques. Il y a le club des fils, etc. Ce qui montre que ce sont des héritiers, tous, hein, qui sont là. En bas, c'est la cité des pauvres, des ouvriers, ceux qui font fonctionner le système capitaliste. Encore une fois, c'est la dénonciation du système capitaliste. Et il va y avoir des bouleversements suite à une histoire d'amour qui est un peu neuneux, il faut dire ce qui est. Hein, bon. Mais avec l'apparition de ce robot maléfique qui va être, en fait, je dirais, l'ancêtre de C-3PO, hein, il faut dire ce qui est, mais qui est transformé par un savant diabolique à une superbe créature qui va prendre le visage de Maria, la jeune institutrice qui veut libérer les fils des ouvriers. Et là, ça bascule. On est dans la dénonciation du système capitaliste et d'un urbanisme oppresseur, mais on entre dans la religion et dans le discours parce qu'on a la nouvelle tour de Babel et ce robot à forme humaine qui représente en fait cette très belle jeune femme, ça va être la prostituée de Babylone. Donc on a une dénonciation du monde urbain, du capitalisme, avec de vieilles traditions chrétiennes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, pour comprendre aussi les paysages, c'est que le film a été écrit, le scénario, entre autres avec Théa von Arbou, qui était la femme à l'époque de Fritz Lang, qui elle a viré nazi alors que lui, il est parti aux États-Unis. Et c'était à la suite d'un voyage aux États-Unis, à Chicago et à New York. ils se sont dit, c'est ça l'avenir? On nous dit que c'est la modernité? C'est quand même assez, assez brutal. Et il ne faut pas oublier ce choc culturel qu'avaient les Européens, même des classes supérieures, et surtout des classes supérieures, en arrivant dans ce nouveau monde qui était absolument sidérant, avec ces gigantesques ascenseurs qui étaient liés à l'utilisation du béton. Des ascenseurs, excusez-moi, ces gigantesques gratte-ciel liés à l'utilisation du béton et des ascenseurs, c'était un choc. Et Duhamel a fait un voyage en 1930 et il parle de Chicago et il dit Chicago, la ville cancer, la ville tumeur, à côté de Paris qui est si élégante. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est si fort, je crois, Métropolis, et que ça va marquer en fait quasiment toutes les représentations qui vont venir des villes du futur.
On continue avec un extrait, c'est l'ouverture d'un film culte, mythique de science-fiction. Évidemment, certains l'ont, bien sûr, je suppose que vous avez tous trouvé avec cette musique de Vangelis, c'est Blade Runner qui propose, de Ridley Scott, qui propose un Los Angeles de 2019, immense film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette Los Angeles, Alain ?
Ah ben, alors, d'abord, le film, je parlais de l'archétype pour Métropolis. Là, on est dans le prototype de la ville cyberpunk. Et c'est vrai que moi aussi, il fait partie de mes films préférés. C'est un film extraordinaire qui marque d'abord par ses paysages. La ville est un personnage à part entière. Il y a évidemment les réplicants, il y a tout le monde joue un rôle très important, mais la ville joue un rôle central. C'est pas seulement un décor, c'est pas seulement un écrin, c'est vraiment un personnage. Et ce qui est intéressant, j'ai deux choses à retenir. Dans le roman de K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, c'est pas Los Angeles. On a tendance à l'oublier. C'est Seattle pour l'usine où on fabrique les réplicants. Et c'est surtout San Francisco. Mais on a changé. Pourquoi on a changé ? Parce qu'aux États-Unis, San Francisco, c'est la ville cool, c'est la ville sympa, c'est la ville gay-friendly, etc. Donc, ça va pas. Los Angeles, c'est justement la ville du désastre. Et là, donc, on a fait ce petit changement et je crois que c'est intéressant de le noter. Je me souviens d'un voyage, premier voyage qu'on a fait avec ma femme, où on est allé à Los Angeles, on avait pris le métro. Et on s'est trouvé dans une situation où les gens dans le métro étaient tellement bizarres que je me suis dit, non, mais en fait, on est dans un film. En fait, c'est Men in Black. Les mecs vont s'ouvrir en deux ou en trois et il y a une créature alien qui va sortir. Donc vraiment, c'est très, très particulier, cette ambiance. Et elle a mauvaise réputation. Réputation de violence, etc. C'est lié en partie aux gangs. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie des grands gangs américains et même latino-américains sont nés, par exemple, comme 18th Street à Los Angeles. Donc, voilà, c'est Los Angeles, c'est la ville désastreuse par excellence, mais c'est aussi une ville qui va être une ville métisse. Par nature, il y a tellement de gens qui se sont rencontrés et qui continuent à se rencontrer, et on a tous les images de des allusions à la Chine. D'ailleurs, on va manger du potage chinois dans la rue, etc., etc. Il y a une autre dimension culturel qu'on oublie, c'est le Mexique. Et ça, c'est important dans les paysages urbains. Les paysages urbains sont en général très génériques. On ne voit pas grand-chose, il n'y a pas de bâtiments, pas beaucoup de bâtiments vraiment identifiables. Mais il y en a un, c'est le Tyrell Building, là où est réfugié Tyrell qui dirige en fait l'empire économique de Los Angeles. Et cet édifice-là est en fait une sorte de parodie de la pyramide du soleil de Teotihuacan. C'est exactement ça. Il y a des trucs qui sont rajoutés, etc. Mais il y a un énorme clin d'œil sur, sur Teotihuacan, et il y a d'autres. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants si on va dans l'appartement de Descartes. On le voit à un certain moment, je ne sais pas si les gens l'ont en tête, la décoration, en fait, c'est une décoration qui est directement piquée sur une grande maison qui a été construite par un des plus grands architectes des États-Unis de l'époque, qui était Frank Lloyd Wright, et qui lui-même avait piqué ces éléments de décoration sur... les temples de Uxmal au Mexique. Donc on voit les clins d'œil sans arrêt, et c'est ce qu'on comprend parce que la minorité hispano à Los Angeles est vraiment gigantesque. Hein, c'est la deuxième ville mexicaine au monde, après Mexico. Hein. Donc on le voit, ça c'est important. Et puis une dimension qui est, je crois, fondamentale et qu'on voit vraiment bien dans le film, c'est la capitale de l'entropie. L'entropie considérée comme la transformation et la dégradation inéluctable de tout système. C'est une ville qui pourrit, qui est en train de se décomposer. Et là, dans le roman de Philippe K. Dick, c'est dit expressément. Il dit c'est la ville de l'entropie.
Passionnant. De toute façon, on garde votre adresse, hein, cher Alain Musset. Si on fait notre prochain MOOC sur Blade Runner, vous serez obligé d'écrire des articles sur la ville dans Blade Runner.
Il y en a un qui va paraître normalement à la fin de l'année, qui s'intitule De Los Angeles à Blade Runner, ou Los Angeles et Blade Runner, autopsie des villes du futur.
Vous ferez un peu de rab pour nous. On écoute un autre extrait. Il fait soudainement très chaud et on est en 2022.
What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need.
This is the police.
What they need most is Soylent Green.
Voilà, alors encore une fois, on avait traité ce film, ce classique dans notre podcast. Il s'agit de Soleil Vert de Richard Fleischer. Un mot sur ce film, Alain, sachant que le roman est très différent du film, c'est bien de le rappeler.
Oui.
Tout le côté, le final tragique du film, ainsi que différentes grandes idées visuelles viennent, en fait, pas du roman, mais du film.
Tout à fait.
Par contre, dans ce roman, il fait de Harry Harrison.
Make room, make room.
C'est ça, il fait très très chaud. Il fait très très chaud et on sent la chaleur en lisant ce livre. Quelle analyse vous faites de ce New York décrépit et effrayant?
Alors, encore une fois, un très grand et très beau classique. Et c'est à la fois dans le roman est différent, mais il est très intéressant aussi. D'ailleurs, dans le roman, le surnom de New York, c'est Babylon on Hudson. Donc, c'est encore une fois le retour de Babylone, la ville maudite et tout ce qu'on voudra. On est dans le futur. Alors, si je ne me trompe, dans le roman, c'est à la veille de l'an 2000, hein, et ça se termine avec les festivités de l'an 2000. On est dans le futur, dégradation de l'environnement, pollution, changement climatique.
C'est surtout l'atmosphère. Hein, moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce roman, j'ai lu pendant la dernière canicule parisienne.
Ah.
Et en fait, j'hallucinais parce que j'étais dans le métro. Je lisais les deux premiers chapitres qui sont remarquables et qui racontent la chaleur.
Ouais.
Et qui raconte ça. Et en fait, quand j'ai lu ça en pleine canicule, je me suis dit, mais c'est plus de la SF, c'est de la réalité.
Ah, mais encore une fois, oui, la marge est très faible. Surtout quand là, on annonce un futur qui est finalement très proche. Le roman est du début des années 70, si je ne me trompe. C'est en gros 30 ans après. Hein, et il nous annonce des choses qu'on est en train de vivre. Alors, ça, c'est une chose. Il faut voir plusieurs éléments. Donc, on est dans un monde qui est en décomposition. Hein. Donc, la ville est aussi en décomposition comme conséquence. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la ville n'est que le reflet ou l'expression matérielle d'une société. Et cette société capitaliste, elle est dénoncée dans Harry Harrison et elle est dénoncée aussi dans le film, qui a finalement, comme dit le vieux Sol, on a produit des millions et des millions de voitures et qu'est-ce qui nous reste maintenant? Des carcasses, tout ça pourrit, on a dominé le monde et maintenant on n'a plus rien. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. les inégalités sociales qu'on va retrouver dans le film aussi. Il y a les miséreux, mais tout le monde est miséreux dans le film, s'entassent dans les escaliers, on n'a pas de place. C'est pour ça que le titre, c'est « make room, faites de la place, faites de la place ».
Oui, ça remonte sur la surpopulation. Exactement. Ce qu'on a tendance à oublier à cause du film,
et voilà,
qui est un peu plus ambigu, qui ne parle pas que de la surpopulation.
Exactement. Le roman, on est dans les années, fin des années 60, début des années 70, où le problème central pour les penseurs de l'époque, c'est la surpopulation, et notamment la surpopulation dans le tiers-monde, ce qu'on appelait encore le tiers-monde. Mais ils n'arrêtent pas de se faire des enfants, qu'est-ce qui va se passer ? La planète ne pourra pas tenir, etc., etc. Et donc là, cette idée, c'est on est effectivement dans une ville qui est surpeuplée. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que, c'est peut-être un clin d'œil, mais dans Blade Runner 2049, quand K rentre chez lui, on est dans la même situation de surpopulation. On a les gens qui sont dans les escaliers, qui dorment, entassés les uns contre les autres, il y a du bruit, les gens se plaignent, etc. etc. Bref, c'est encore une fois une série d'interpénétrations entre les idées, les films et la réalité. Mais ce qui me marque, encore une fois, moi, dans Soleil Vert, c'est cette ville qui est pourrissante, cette chaleur qui a envahi tout, les disparités sociales. Il y a des gens qui ont encore les moyens de se payer des pommes ou même des morceaux de viande. Et il y en a même qui peuvent aller sous une grande tente où il y a quelques pots avec des plantes et une sorte de petit arbrisseau. Je ne sais pas si c'est ce qui reste de Central Park, mais il n'y a que les plus riches qui peuvent y aller encore à tour de rôle pour en profiter. Donc, la ville des injustices sociales, la ville de la dégradation environnementale et la ville où le manque de ressources rend la population complètement dépendante. Je vais spoiler comme je l'avais dit, sur la fin qui est absolument magnifique, dramatique, où on découvre que, alors ceux qui ne veulent pas spoiler doivent se boucher les oreilles, que les crackers verdâtres qu'on mange, le fameux Soylent Green, en fait, ce sont les corps des cadavres qui sont concassés, réutilisés pour nourrir les habitants qui restent. C'est très fort. Et encore une fois, mon statut de géographe qui est sans arrêt face à la réalité aussi, mais ça m'a fait penser, quand je l'ai vu, à un roman qui s'intitule « Des hommes et des crabes », qui est écrit par un géographe, anthropologue, Josué de Castro. Ça se passe à Recife. Et il raconte ce qu'il appelle le cycle du crabe, les habitants qui sont très, très pauvres à Recife. Bon, ils meurent, hein, comme tout le monde, et ils enterrent leurs cadavres sur la plage, parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Ces cadavres, en fait, ils sont dévorés par les crabes qui sont là. Et les gens, ils se nourrissent de quoi ? Ils se nourrissent des crabes. Donc, on a une sorte de cannibalisme au deuxième degré que l'on retrouve là, industrialisé avec Soleil Vert. Et j'avoue que c'est assez impressionnant.
On va passer au space opéra avec une galaxie lointaine, très très lointaine, et sa planète. Ça tombe bien, Alain, parce que je crois que vous êtes fan. On écoute l'extrait.
Coruscant. The entire planet is one big city. There's Chancellor Valorum's shuttle. And look over there. Senator Palpatine is waiting for us.
Voilà, alors c'était la planète Coruscant, moi je le dis à la française, mais Alain va le dire mieux que moi, Coruscant, c'est ça ?
Non, c'est en anglais Coruscant.
Coruscant.
Mais en français, moi je préfère dire Coruscant, parce que c'est un adjectif qui existe et qui veut dire brillant, étincelant. C'est un mot qu'on a un peu oublié, mais ça existe. Hein, donc je ne vois pas pourquoi je me priverais de le dire en français.
Qu'est-ce que vous pensez de cette planète-ville, finalement, vu que c'est une ville-planète
Oui.
Voilà.
Alors, elle est chère à mon cœur, mais c'est vrai que j'ai commencé à... Bon, je suis fan de science-fiction depuis longtemps. Je me suis mis à Star Wars un peu plus tardivement. En fait, au début, je ne suis pas allé voir les films parce que, quand ils sont sortis, j'étais contre l'impérialisme américain, tout ça. Enfin, bref, bon, c'est idiot parce que c'est justement contre l'impérialisme. Mais bon, je vais pas chicaner. Mais je les ai vus, en fait, tardivement. J'ai été scotché. Quand mon fils est arrivé, alors là, évidemment, ça a été le délire absolu. C'était ressorti en VHS. On passait son temps devant. Et en fait, je me suis mis au roman. Parce que dans la trilogie originale, on parle de Coruscant, mais on ne la voit pas. Dans la prélogie...
On la voit.
On la voit, mais c'est... heureusement, mais c'est combien de temps après ? Donc, entre-temps, j'avais commencé à lire les romans. Il y a des centaines de romans. Et de nombreux romans se passent à Coruscant. Donc, j'ai découvert Coruscant, comme ça. En fait, par la littérature, plus que par le cinéma. Ou maintenant, par les séries, bien sûr.
Alors, on peut parler, on a invité sur le podcast Timothy Zahn.
Qui
est venu. Il y a évidemment d'autres sagas. Il y a la saga du Prince Ken. Moi, c'est comme ça que c'est mes premiers romans Star Wars j'ai lu plus jeune, typiquement. Il y a aussi les jumeaux. Les jumeaux
Jacen, Jaina.
Il y a eu toute une collection incroyable de romans Star Wars qui ont fait de notre bonheur, hein, souvent. Parce qu'il n'y avait pas de prélogie à l'époque. On ne pensait pas qu'il y avait vraiment de prélogie.
Non, c'était l'univers étendu. Après, on nous a fait exploser ça. Enfin, je ne vais pas revenir sur Disney. Donc, j'ai commencé à lire les romans. Et en tant que géographe urbain, j'ai commencé à lire ce qui était écrit sur Coruscant. Et ça m'a intéressé. Les villes, la ville verticale, avec les monades, comme dans Silverberg. Les déplacements de population, la fragmentation, les sécessions, la ghettoisation, tout ça. Et j'ai commencé à lire. Je me suis dit, mais... Oh là là, ça me rappelle vraiment Burgess, Park, l'école du Chicago. Ça. Et là, j'ai commencé à prendre des notes. C'est terrible, c'est affreux. Parce que quand on commence à prendre des notes, après, on oublie qu'on est en train de lire un roman. On a l'impression qu'on est sur le terrain. C'est-à-dire, je ne suis pas allé à Coruscant parce que je ne veux pas y aller, mais j'y ai carrément habité. Avec les habitants, parce que ces habitants, ils nous parlent. On fait quasiment des interviews et tout. Dans tous ces romans, on nous donne des descriptions des quartiers, les bas-fonds, etc., etc. Il y avait les jeux vidéo aussi. Avec mon fils, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo parce que moi, je ne suis pas doué. Donc, c'est lui qui faisait passer les niveaux, ce que je pouvais réussir à avancer. Et donc, j'ai découvert cette ville qui, en fait, est une synthèse ou une parabole de tous les maux des villes contemporaines. Et surtout des mégapoles. La ville qui s'étend sur toute la surface de la planète, évidemment, c'est comme dans 30 heures, hein, dans le cycle de fondation. C'est un univers complètement artificiel dans lequel il y a des canyons. On parle des canyons, mais c'est des canyons entre les monades, entre les grands gratte-ciels, etc., etc. Donc, je me suis passionné sur cette société urbaine. Et ça a été, en fait, en 2005, mon premier livre de géographie urbaine que j'ai appliqué à la science-fiction, que j'ai appelé de la géofiction. Donc, effectivement, pour moi, Coruscant, c'est un très, très bon exemple de ville futur, bon, même si c'est il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, mais d'une ville future qu'on nous annonce et qui, je l'espère, ne finira jamais par arriver chez nous.
Dernier extrait, et non des moindres, alors c'est un extrait d'une bande-annonce. Des fois, la ville peut juste tenir dans un train ou dans un wagon. Et oui, c'était le transpersonnage. On avait eu les premiers épisodes de C'est plus que de la SF. Souvenez-vous, Rochette, le créateur, le dessinateur, était venu sur le podcast. Un mot sur le transpersonnage et un film, moi, que j'ai beaucoup apprécié de Bong Joon-ho. Peut-être un petit mot dessus.
Alors, oui, parce que la BD est magnifique. Et le film, se distingue beaucoup de la BD, mais est très intéressant parce que il nous donne une autre image d'une société urbaine, mais qui se déplace sans arrêt puisque elle est dans un train. C'est le train, c'est Snowpiercer. Celles et ceux qui disent transpersonnage, c'est quoi transpersonnage? C'est la BD, le film, c'est Snowpiercer. En français, ça avait été traduit. Transpersonnage ?
Non, je pense. Transpersonnage.
Ça avait été traduit en français. Ouais. Ah, d'accord. C'est très intéressant parce qu'il reprend dans ce film-là, Bong Joon-ho, tous les schémas de nos sociétés urbaines contemporaines. Avec la distance sociale, la fragmentation urbaine. Alors, il n'y a pas de haut et pas de bas, évidemment, puisqu'on est dans un train qui roule. Mais il y a une tête et une queue. Donc, à la place du haut, c'est la tête, évidemment. Et là, on a l'élite qui vit dans d'excellentes conditions. Et dans les bas-fonds, c'est-à-dire dans la queue du train, il y a les miséreux qui vivent dans des conditions épouvantables. Et l'idée, c'est que est-ce qu'on peut changer cette société-là ? C'est encore une fois un problème de lutte des classes. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est qu'il y a Curtis, qui va être le révolutionnaire, dont le but est de s'emparer de la locomotive. Parce que qui s'empare de la locomotive ?
Contrôle.
Voilà, contrôle, en fait, tout le système. Et pas seulement le train, la société qui va avec. Et il se fait aider par une sorte de geek déjanté qui est Namgung Minsu. Lui, il a un autre projet. Lui, il veut sortir du train. Et on lui dit, mais non, mais c'est pas possible. Regarde, tout est enneigé, la vie est impossible dehors, les températures sont épouvantables, il y a la glace, etc. Et il dit, mais non, il doit y avoir une solution. Lui, il veut faire péter une porte pour sortir du train. Et encore une fois, on lui dit, non, c'est un petit peu... Encore une fois, comme le système capitaliste néolibéral, there is no alternative, hein, ce que disait Margaret Thatcher. Donc c'est ça, voilà, on peut pas changer le système, et là on peut pas changer le train parce que le train c'est la vie. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il réussit avec l'aide de sa fille à faire péter le train, ce qui provoque une avalanche qui emporte le train. Il reste deux survivants, justement sa fille et un petit garçon, et on découvre que oui, la vie est possible. On voit, il y a un ours.
Y a un ours.
Donc ce qu'on nous disait en disant qu'il n'y a pas d'alternative, c'est faux. Un autre monde est possible. Et c'est la conclusion de mon bouquin, d'ailleurs, justement, à ce sujet. Je dis qu'entre Curtis et Namgung Minsu, le vrai révolutionnaire n'est pas l'homme qui veut s'emparer du train, mais c'est celui qui le fait dérailler. Donc, notre boulot est peut-être de faire dérailler cette société qui produit ces injustices et ces inégalités.
Avez-vous le sentiment que les prédictions de la science-fiction se soient réalisées sur la question des villes et que certaines parties de notre monde ne ressemblent pas à Tous à Zanzibar de John Brunner, je pense un des romans les plus prédictifs qui a été écrit de la science-fiction. En tout cas, c'est une proposition, donc c'est un livre des années 60 et qui fait une proposition du monde d'actuel qui est quand même assez proche. En tout cas, il y a des choses, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on se dirige vers un monde à la Tous à Zanzibar ou pas ?
Alors, on n'y est pas encore. Heureusement, on n'y est pas encore. Mais si je ne me trompe, le film sort en 1968, c'est pas rien, c'est pas une année neutre.
Le roman, ouais.
Sort en 1968 et il nous annonce effectivement ce qui est en train de se passer. Genre, il faut pas oublier que effectivement, on est dans un monde, dans tout ça, Zanzibar. Alors, il y a le problème de la surpopulation. C'est classique, on est fin des années 60, début des années 70, la surpopulation est là. Mais lui, il voit autre chose. Il voit aussi la dégradation environnementale. Il voit les changements climatiques. Il voit les transformations de la société qui deviennent des sociétés de plus en plus de contrôle, de flicage. On est dans des moments où la pression entre les groupes humains est tellement forte qu'on est, comme je dis, dans la fameuse écologie urbaine de l'école de Chicago, avec la succession raciale, je reprends les termes de Burgess et Park, il note que les gens ont tendance à s'enfermer de plus en plus pour se protéger, pour garantir leur territoire. Donc oui, il y a incontestablement des thèmes qui sont des thèmes d'actualité. Il va plus loin parce qu'il peut se le permettre. C'est un romancier, mais je pense qu'on est déjà en partie dans l'univers de Tous à Zanzibar. D'ailleurs, une partie des thèmes qu'il va reprendre, notamment sur la séparation et la ségrégation, on va les retrouver dans L'Orbite déchiquetée, qui est un autre roman qui
est la suite de John Brunner, c'est la saga que Brunner a écrit et qu'on recommande. On recommande aussi l'écoute du podcast qu'on avait fait spécialement sur Tous à Zanzibar, qui est un des plus grands livres de SF, même s'il n'est pas si facile d'accès que ça.
Il est très difficile, très difficile, parce qu'il est complètement déstructuré. Il propose une autre forme de faire du roman, et c'est vraiment un livre difficile, passionnant, extraordinaire, mais difficile.
Quelle est votre ville de science-fiction favorite ? Est-ce que c'est Coruscant, alors,
finalement ? Alors, ça y est,
j'ai compris.
Oui, tu as compris. Oui, c'est Coruscant, pour déjà tout ce que j'ai dit, et parce que, et c'est important aussi, c'est la ville de science-fiction pour laquelle on a le plus d'informations. Tous les romans, tous ces romans qui se passent à Coruscant, après, avec la prélogie des visions de Coruscant, on arrive à le voir. Avant, on se l'imaginait. Il y avait des BD, des comics, énormément de comics. Hein, mais on a des précisions, des descriptions, des analyses même des phénomènes sociaux et spatiaux dans Coruscant qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Donc, pour un géographe spécialiste des mondes urbains, c'est presque le paradis. Donc, pour ça, c'est important. Et puis, il y a le fait que c'est une ville qui est fascinante, qui est extraordinaire. C'est un petit peu, on en parlait, The Line en Arabie Saoudite. C'est un projet extraordinaire. Cette ville qui fait 500 mètres de haut sur 170 kilomètres de long. On est fasciné. À la fois, on est effrayé. Hein, les gens qui vont à Coruscant pour la première fois, ils ont cette sensation-là, à la fois de fascination et de répulsion. Dans un des romans de la jeunesse de Han Solo, il est accompagné par Bria, qui est sa fiancée de l'époque, et elle voit tous ces gratte-ciels autour d'elle, elle a le vertige, elle a même des nausées. Elle dit « Non, mais tu vas t'habituer, tu verras, c'est comme ça. » Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'affection pour le monstre. C'est un monstre, mais finalement, c'est un monstre qui marche. Et c'est pas facile à faire fonctionner tout ça. Et là aussi, les personnages qui vivent, ils sont obligés de vivre à Coruscant. Leia, Han Solo, et même Luke Skywalker, il y a quand même le temple, hein, faut pas oublier. Se prennent d'affection pour cette ville. Au départ, ils se disent « Non, c'est monstrueux, je ne veux pas. » Finalement, il y a plein d'autres mondes qui sont bien mieux que ça. Et puis, oui, d'accord, mais quand même, les séances à l'opéra. Oui, mais il y a les marchés. Oui, mais il y a les restaurants qu'on va retrouver sur la place centrale, etc. etc. Et finalement, c'est notre monde. Et il n'est pas si mal que ça. Et cette détestation de la ville, je crois qu'on finit par l'oublier. Et on se dit, mais finalement, on se plaint, mais ce n'est pas si mal que ça, sauf évidemment pour ceux qui vivent dans les bas-fonds.
Merci beaucoup, Alain Musset. J'ai hâte de vous faire lire ma BD qui va sortir en mai prochain.
J'ai hâte. D'ailleurs, souviens-toi, c'est moi qui avais dit « Oh, mais alors, il va y avoir une présentation, quand ?»
Voilà, je vous donnerai les infos, Alain, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. C'est vrai qu'il y a une bande dessinée publiée chez Casterman et illustrée par Amaury Bungen qui sort. Et le pitch, bon, on fera une émission spéciale avec Denis Bajram normalement, mais le pitch reste assez simple. L'humanité est parquée dans une tour géante. Et j'en dis pas plus, mais j'ai hâte d'avoir votre avis, Alain, car je pense que ça va vous faire sourire, vu qu'on est amoureux de la science-fiction des années 70, de la New Wave SF. Moi, c'est ma SF que je préfère le mieux. Je recommande vraiment la lecture aux auditeurs de Station Métropolis, Direction Coruscant. Très, très bon ouvrage aux éditions du Bélial, la fameuse collection Parallax, dirigée par Roland Lehoucq, qu'on apprécie tout particulièrement. Et votre ouvrage, qui fait 250 pages, est passionnant. Ça se lit tout seul et ça ne coûte que 16,90 €.
C'est pas cher.
Donc je recommande vraiment la lecture. Et puis évidemment, vous êtes joignable sur les réseaux sociaux, Alain. Donc si on a des questions pour parler géographie et science-fiction, je sais que vous êtes capable de répondre. Et
tout de suite.
Vous êtes toujours ouvert, ainsi que Star Wars. Hein. Les auditeurs n'ont pas vu, mais vous avez un merveilleux badge à l'effigie de Yoda. Voilà.
Et attention.
Attends, il y a le stylo Boba Fett que je peux admirer et qui est tout à fait génial. Très bien, on va finir sur ça. Un grand merci à Alain Musset. Il y a aussi la montre, ah oui, d'accord.
C'est ma montre Chewbacca.
Bon, on vous invitera pour un spécial Star Wars, Alain Musset.
Ah, avec plaisir.
Un de ces quatre, on vous invitera. On fait des podcasts Star Wars de temps en temps. Et c'est vrai qu'avec The Acolyte qui doit.
Oui, The Acolyte qui va sortir.
Arriver bientôt, ça, ouais. Je pense qu'on en parlera dans C'est plus que de l'SF. On pensera à vous, Alain Musset. Encore merci et à bientôt.
Merci.